Je suis au cinéma des Grutli à Genève avec Arnaud Despalières. Bonsoir Arnaud Despalières.
Bonsoir.
Nous allons parler Captive. Vous étiez déjà présent pour le Geneva International Film Festival. Et là, vous êtes de retour à Genève puisqu'il y a évidemment une projection en cours actuellement. J'ai ouï dire que la jeunesse du film a été un petit peu difficile, la gestation. Vous avez tenu bon et vous avez pu surmonter les obstacles.
Oui, alors j'ai pas tenu tout seul, hein. C'était vraiment mes producteurs et moi. Le film, c'est la préparation. Enfin, il y a eu trois préparations. Il y en a eu deux qui se sont arrêtées. Je crois que la première fois, le budget du film n'était pas tout à fait complet. La deuxième fois, c'est mon actrice principale qui finalement a dû renoncer. Enfin, la première actrice principale pressentie qui a renoncé. Mais la troisième préparation était la bonne.
Jamais 203. Arnaud Despalières, vous avez vraiment un panel d'actrices à contre-emploi pour certaines, vraiment exceptionnel, à commencer par Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Carole Bouquet, Marina Foïs. À quel moment vous avez eu le choix qui vous est venu? Déjà à la fin de l'écriture ou comment ça s'est déroulé?
Je crois qu'il ne faut pas oublier Yolande Moreau et Dominique Fro. Comme je vous l'ai dit, la distribution a changé en cours pour des raisons de, enfin, pour les raisons de justement de ces faux départs. Je crois que les deux actrices auxquelles on a songé dès le départ avec ma co-scénariste Christelle Berthevas ont été Josiane Balasco et Yolande Moreau, pour qui on peut dire qu'on a écrit. C'est-à-dire on a écrit en pensant à elles, et c'est en pensant à elles qu'on a été capable de, dire, d'animer ces personnages de l'imaginaire qu'on avait de ces grandes actrices. Pour les autres, il a fallu tout réinventer lors de la dernière préparation. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail dans la rencontre de chacune, mais on va dire que parce que je ne trouvais pas ma Fanny, et quelqu'un me dit « Est-ce que tu as pensé à Mélanie Thierry ?» On vient d'apprendre qu'elle devait tourner un film d'Emmanuel Finkiel qui lui aussi a été reporté, comme quoi on était... Et comme quoi, quelquefois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et on nous a proposé de nous rencontrer. Moi, je n'avais pas pensé à elle parce qu'elle me paraissait une actrice très moderne, très contemporaine. Et je l'imaginais... Et plutôt d'origine modeste. En tout cas, voilà. Or, j'imaginais mon personnage un peu comme une grande bourgeoise. Raison pour laquelle j'avais pas pensé à elle. Et on s'est rencontrés. Je pense qu'on avait et l'un et l'autre... envie de tenter. Je crois qu'il y a... Même si je crois qu'on s'intimidait un peu l'un l'autre. Parce qu'on avait conscience de venir d'endroits du cinéma assez différents. Et je pense que moi, j'ai été assez maladroit avec elle en préparation, puisque je transportais encore une idée ancienne qui me venait des débuts de collaboration avec l'autre actrice. Je pensais que c'était inhérent à mon personnage, mais c'était inhérent à mon imaginaire du personnage qui était lié à la première actrice.
Il fallait peut-être faire un deuil aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est surtout que je pense que j'avais même écrit en pensant à cette autre actrice, ce dont Mélanie, à qui je rends hommage d'ailleurs, avait bien conscience. Et elle m'en a pas tenu rigueur, même si ça m'a pas permis de me rapprocher autant que j'aurais dû le faire pendant la préparation. Et c'est à un ou deux détails qui se sont joués dans les premières semaines de tournage qu'on a appris à se faire confiance. D'abord, moi, j'ai été extrêmement frappé dès qu'on a tourné le premier plan d'à quel point la personne avec laquelle je discutais quand je travaillais et la personne telle qu'elle est apparue dans la caméra, enfin dans les écrans de contrôle, n'avait rien à voir. C'est ce qu'on appelle la cinégénie, c'est-à-dire certains, à mon avis, grands acteurs de cinéma ne sont pas les mêmes personnes quand elles sont filmées et quand elles sont dans la vie quotidienne. Et ça m'a frappé très fort à quel point elle trouait l'écran, à quel point son regard, la plasticité de sa silhouette, sa voix, son énergie en général, tout d'un coup m'ont frappé et m'ont passionné, comme il s'agissait d'une actrice qui allait être présente quasiment dans tous les plans du film. C'était très essentiel que je sois mu par un tel enthousiasme et une telle passion. D'abord, elle l'a senti, elle a senti mon enthousiasme, donc je pense que ça l'a un peu tranquillisé. Et puis, voilà, il y a un détail que je raconte volontiers, qui est qu'on lui avait prévu une robe, qui d'ailleurs datait de la première actrice, très complexe, sur laquelle la costumière avait beaucoup travaillé, etc. Et puis, dans les essayages de dernier moment, pour un petit moment, la toute première séquence du film, j'ai vu passer une robe de location, qui était un vrai vêtement de l'époque, que j'ai vu sur elle et qui m'a extrêmement frappé, où tout d'un coup j'ai vu le personnage et je me suis dit mais c'est ça en fait qu'il faut pour le personnage, et qui était très simple. C'était une robe toute bleue, qui était d'un bleu un peu sombre, la robe était un peu élimée, lui allait pas parfaitement, mais elle était le personnage, peut-être d'ailleurs tout simplement parce que aussi que ça avait été un vrai vêtement de l'époque. En tout cas, j'ai vu Mélanie, j'ai vu Fanny dans cette robe, et j'ai imposé cette robe à la costumière en ayant conscience que je mettais par terre tout le travail qu'elle avait fait sur un autre costume. Et j'étais tellement convaincu, alors qu'en principe ça se fait pas, parce qu'il faut un double de chaque, surtout pour un costume du personnage principal qu'elle va porter du début à la fin du film, partir sans un double du costume, qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on ne pouvait pas retrouver le même tissu, enfin c'était pas possible. Et là elle s'est dit il prend peut-être un risque, mais au moins il a l'air de savoir ce qu'il veut.
Il me fait confiance, surtout là-dessus.
Voilà. Et donc la confiance s'est établie sur des petits détails de cet ordre-là, et en une ou deux semaines, on était vraiment compagnons, et je pense qu'elle m'a laissé l'emmener partout. Et on a pris des risques, et j'ai l'impression qu'elle m'autorisait à ce qu'on passe par tous les états possibles et imaginables d'un seul et même personnage.
À l'instar un peu de Fanny, d'ailleurs, qui découvre une réalité qu'elle ne soupçonne pas dans cet asile où, en fait, on enferme les femmes, peut-être certaines pour démentes, mais beaucoup de femmes qui, en fait, dérangent la société de l'époque. Il peut y avoir une fille mère, comme on le voit. Il peut y avoir une femme qui dérange parce qu'elle est la seule héritière d'une grosse fortune. Des femmes qui sont cataloguées d'hystériques. Et cet univers, ça a dû vous parler énormément, puisque vous avez quand même toute une expérience comme documentariste. J'imagine que vous aviez vu aussi toute la fresque humaine qu'il y avait derrière ce lieu.
L'idée de départ, enfin la raison pour laquelle, c'est pas moi qui ai eu l'idée de travailler sur l'événement du Bal des Folles, c'est vraiment une idée de mon producteur. C'est mon producteur qui cherchait, au départ, une réalisatrice d'ailleurs, puis qui finalement, à qui on a conseillé de s'adresser à moi, parce qu'il faisait souvent référence à deux films que j'avais réalisés et co-écrits avec Christelle Berthevas, qui était Orpheline, et Michael Collas. Michael Collas pour un rapport à la représentation d'une époque, un rapport, comment dire, très simple à la représentation d'une époque. Et Orpheline, j'imagine, par rapport à la forte incarnation d'un personnage féminin. Mmh. Et, Et c'est lui qui est arrivé avec ce sujet. Lui, il avait une raison intime et même familiale, puisque je pense qu'il avait une histoire familiale avec la psychiatrie. Donc il avait un vrai rapport, c'est pas pour faire un coup de production, c'était vraiment, il avait un attachement intime à ce que quelque chose soit représenté, de qu'est-ce que c'est que des gens, des malades, des gens qui sont en souffrance, et qui ont affaire avec l'institution psychiatrique, une maison où on essaye de les soigner. Et je pense que la première chose dont on s'est saisi avec Christelle Berteva, c'est « Ah, ben ça va être l'occasion de dire quelque chose de la condition des femmes, en général, de dire quelque chose de la condition des femmes de l'époque, mais aussi que ça nous renvoie évidemment, dans une espèce d'effet de miroir, à... et qu'est-ce que ça dit de... Et qu'est-ce que interroger la condition de la femme à l'époque nous renvoie à... Est-ce qu'on a tant avancé que ça? Est-ce que... Et, voilà. Et quid de notre époque? Et je pensais que c'était... vraiment l'occasion de... Et c'est devenu beaucoup plus... évidemment, ça touche à la question de qu'est-ce que c'est que la maladie mentale, qu'est-ce que c'est que notre regard sur quelqu'un dont on nous dit qu'il est malade mental, qu'il est fou, qu'il est... Et il y a eu cette idée de prendre le spectateur par la main grâce au corps, à la voix, à la silhouette du personnage principal, et de faire des rencontres, et de laisser le spectateur se faire sa propre idée de chaque être rencontré, sans qu'on lui dise celui-ci est fou, pas fou, révolté, pas révolté, que le spectateur soit comme Fanny et ait à faire l'expérience de la personne avant d'émettre un jugement, et même je dirais que le spectateur est à chaque fois à interroger son propre jugement et soit peut-être même un peu dérangé, chamboulé dans son jugement sur l'idée peut-être qui se fait de la misère, de la beauté, de la laideur, de la maladie mentale, et de son propre positionnement vis-à-vis de tout ce qui peut lui faire peur, de tout ce qui peut avoir tendance à vouloir tenir à distance et provoquer une forme d'attachement du spectateur à ces êtres différents, ces femmes différentes qu'il va rencontrer.
Arnaud Despalières, je rebondis sur deux de vos propos. Vous avez mentionné votre co-scénariste. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous travaillez à quatre mains, d'une part, et d'autre part, après, par rapport à la distance, vous avez fait un choix esthétique de ne pas maquiller vos comédiennes.
Comment je travaille avec ma co-scénariste c'est pas pareil avec sur tous les films. Je dirais que sur ce film-là, je dois dire que on s'est tous les deux plongés dans les textes des historiens et particulièrement des historiennes, puisque on s'est rendu compte assez vite que c'était que la psychiatrie et la salpêtrière c'était un corpus d'archives dont s'étaient réemparées les historiennes dans l'idée d'entrer en critique de la lecture des historiens, qui était une lecture évidemment masculine et donc qui laissait en partie de côté toute la critique de la du système patriarcal. Et donc c'était très intéressant de faire, je dirais, une première lecture des grands historiens et ensuite de venir relire aussi les grands historiens à travers le regard d'historiennes et le regard plus récent d'historiennes. Donc on a vraiment essayé d'interroger ce regard dominant, et c'est là où on s'est rendu compte assez vite que, au-delà des mauvais traitements, etc., on n'internait pas les femmes, alors à la salpêtrière, selon les mêmes critères qu'on internait les hommes à la pitié, en même temps. Je ne sais plus si c'est pas Michel Perrault, l'historienne, qui donne cet exemple. un homme, un ouvrier qui se révolte et qui jette une brique dans une vitre pour protester, enfin voilà, c'est perçu comme un geste politique et il va en prison. Il va pas à la pitié. Une femme qui fait ça, c'est perçu comme un symptôme de folie. Une femme qui se révolte, c'est une folle. C'est pas quelqu'un. On ne peut pas la rabattre sur un propos politique, sur un positionnement politique. C'est forcément un dérèglement. C'est forcément, d'ailleurs, la première question qu'on pose à une femme quand elle rentre à la Salpêtrière, c'est la date de ses dernières règles. Mmh. C'est-à-dire une femme qui est déréglée. Il y a cette idée de dérèglement. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas soumise à la sexualité masculine est une femme déréglée. Tout simplement. D'où le fait que Ercilly Rouy, interprétée par Carole Bouquet, est facilement internée parce qu'elle est célibataire. Voilà. Étant célibataire, forcément, il y a un truc qui tourne pas rond. Elle n'a pas eu d'enfant, elle ne s'occupe pas d'enfant. Donc, elle n'est pas une femme réglée dans le sens de comment tout doit être réglé dans une société où une femme flirte très vite avec la folie à partir du moment où elle sort de la voie principale qui est d'être mère, de tenir le foyer et de s'occuper des enfants.
Tellement accomplie auprès de son mari.
Absolument. Et donc, on réalise en lisant les historiennes qu'il y a une proportion beaucoup plus faible de vrais malades mentales à la Salpêtrière qu'il n'y en a à la pitié pour les hommes, et qu'il y a une proportion très grande de femmes déréglées, au sens du regard de la société masculine, qui sont des femmes dépressives, des femmes dépressives parce qu'elles ont été souvent agressées, brutalisées, mais une jeune fille à qui on n'a pas expliqué ce que c'était que les règles et qui a ses premières règles à 15 ans et qui panique et qui fait une crise, on la met à la Salpêtrière, mais une prostituée occasionnelle qui se prostitue pour nourrir ses enfants, elle échoue à la Salpêtrière, une alcoolique, une droguée, une cuisinière à qui on demande de faire le ménage, qui se révolte contre son patron en disant « je suis cuisinière, je n'ai pas été engagé pour ça ». Et tout ça, on est parti d'archives, vraiment. Donc tous ces cas particuliers sont des cas qu'on a rencontrés et on s'est vraiment rendu compte que la Salpêtrière était l'égout de toutes les femmes qui ne correspondaient pas à ce qu'on attendait d'une femme à l'époque, voilà, et particulièrement chez les femmes de basses conditions.
Ça ne correspondait pas au carcan de la société, du moins ce qu'on attendait de ces femmes.
Vous m'avez posé une question sur la question du maquillage.
Oui.
C'était inimaginable, évidemment. C'est une chose très simple. Ces femmes n'étaient pas maquillées. Donc, nous, au cinéma, on maquille tout le monde parce qu'on a peur que, etc. Et surtout les femmes. Et ça m'a paru extrêmement évident. Bon, moi, je me méfie du maquillage traditionnel au cinéma. Je trouve ça moche. Je trouve ça vieillot. Je trouve que c'est horriblement vieillot, notamment la préoccupation des maquilleurs, tels qu'on leur demande depuis des dizaines d'années, c'est surtout qu'un visage ne brille pas, comme si on n'avait pas le droit de, comme si on transpirait pas, comme si on n'était pas fait de nos humeurs, de nos émotions, surtout, parce que moi je trouve que ça tue le rapport aux émotions d'un visage. Et j'étais ravi à l'idée de pouvoir non seulement ne pas les maquiller, mais que si on allait tourner l'été, on allait tourner dans d'assez fortes chaleurs, que tous ces visages allaient luire et que moi personnellement je trouve que c'est très beau, ça les met en valeur, ça sculpte les visages la question s'est à peine posée et aucune de toutes ces femmes qui me faisaient confiance, je crois, qui nous faisaient confiance au chef opérateur et à moi n'a trouvé à redire sur le fait qu'on les filmait sans maquillage.
Alors, nous, dépanneurs, justement, je rebondis, le fait de voir ces visages comme ça, nus de tout maquillage et de tout artifice, ça fait penser à certains tableaux. Il y avait un côté très pictural qui était merveilleux. Et par contre, vous avez choisi, sans doute pour nous mettre en immersion au plus proche de ces femmes qui sont toutes des héroïnes à leur dimension, en immersion, donc avec des gros plans sur les visages, sur le regard, des zooms. Ça, c'est un choix esthétique auquel vous teniez particulièrement.
Alors, la question des gros plans, qui est une... On va dire que ce n'était pas une... Comment dire ? C'était pas un principe esthétique que je m'étais donné au départ. Mais d'abord, j'ai compris que c'était la plus belle chose que j'avais à filmer. C'était le visage de ces femmes. Mmh. Pas très compliqué. Les mains, les visages, les fragments de corps. C'était la chose la plus... Enfin, c'était ce dont je disposais de plus précieux. Donc, je ne vois pas pourquoi je me serais mis à filmer des façades de bâtiments à la place de ça, sous prétexte qu'on fait un film en costume. C'est vrai qu'on a le réflexe, souvent, quand on fait un film en costume, de montrer les beaux décors, regarder les beaux costumes, les beaux décors, etc. Donc j'avais dit à mon équipe, on fera pas ça. On va filmer comme on filme dans une histoire contemporaine. Et par ailleurs, comme tout le film est raconté et est perçu de façon fragmentaire par Fanny, au fond, je me suis senti obligé d'être à une échelle du rapport humain. Et donc, comme je filme ce qui arrive à Fanny, et comme Fanny prend connaissance de ce lieu et de cette communauté de femmes de façon fragmentaire, à l'échelle de son corps, à l'échelle de... Je ne pouvais pas être une échelle plus grande, et je me suis presque interdit, d'une certaine manière, je crois me souvenir, les premiers plans larges qu'on voit, c'est quand Fanny monte sur l'estrade et qu'elle regarde le public qui l'écoute. Voilà. Et là, on est effectivement de son point de vue, sur un endroit où on domine un peu et où elle peut voir toutes ces femmes. Mais avant, elle est toujours restée à une distance de maximum quelques mètres, parce que c'est, encore une fois, c'est toujours elle qui regarde, elle qui entend, elle qui parle et qui interagit avec les autres personnages.
Quand j'ai vu votre film, je pensais à Cocteau qui disait « Il faut envahir le public, les spectateurs. Vous nous avez envahis parce que justement, on n'a pas de repères, disons, géographiques très concrets, la bâtisse. On voit un peu les jardins quand on découvre Yolande Moreau, la mer que recherche Fanny. Mais sinon, on est vraiment de plein fouet avec Fanny, avec les rencontres qu'elle fait, avec les comparses qu'elle se fait aussi. Il y a une solidarité, même s'il y a aussi des difficultés. Et je pense que c'était aussi un choix de nous laisser sans référence comme ça, de spatiale.
Mais oui, c'est-à-dire que si, encore une fois, je reviens au principe simple qui est de dire l'histoire est racontée, enfin la caméra est à la place des yeux de Fanny, donc l'histoire est racontée du point de vue du corps de Fanny et de l'expérience qu'elle fait, il y avait absolument, comment dire, aucune raison de sortir de cette dimension-là. Donc, j'ai oublié ce que vous avez demandé dans votre question.
Oui, qu'on est vraiment envahi par ce milieu. On est aux côtés de Fanny.
Ouais.
Et ça me rappelait Cocteau qui disait qu'il faut envahir le public.
Ouais.
Et donc, on n'a pas vraiment de repères géographique.
Voilà, non, et on est comme Fanny. Elle est perdue, on est perdu. Voilà. Donc, moi, je sais que je ne comprends pas toujours les films où le personnage principal est perdu, mais nous, on nous montre bien à quel endroit elle est perdue et que derrière la porte, il y a ceci qui l'attend. Et que ça me semblait beaucoup plus puissant. Moi, je suis convaincu que le cinéma, on dit que c'est l'art de montrer, mais c'est aussi beaucoup l'art de cacher et de choisir ce qu'on montre et de ne pas tout montrer. Et donc, je trouvais ça aussi intéressant, ce que Fanny ne voyait pas, ce que Fanny ne comprenait pas, et au fond, de montrer l'immensité de ce lieu par le fait qu'elle ne pouvait pas l'appréhender, cette immensité. Et j'ai trouvé ça plus intéressant de montrer les fragments de labyrinthe dans lequel elle était coincée plutôt que de montrer l'ensemble du labyrinthe. Voilà.
Et de créer un langage filmique qui est vraiment propre au film, par rapport à vos archives dans lesquelles vous êtes plongé. Est-ce que vous avez découvert des choses? On parle beaucoup du docteur Charcot, de ses méthodes, qui maintenant, bien sûr, paraissent totalement déplacées. Là, on voit qu'il montre un petit peu ses bêtes de foire lors de ses bals des folles, à la bonne société, aux bourgeois. Ou...
Oui, alors, bon, d'abord, moi, très tôt, j'ai su que le bal n'était pas mon sujet. Voilà, c'est un épisode, c'est l'épisode le plus spectaculaire, mais moi ce qui m'intéresse c'est la vie de ces femmes en fait, c'est la vie quotidienne de ces femmes. Donc c'est pour ça que assez tôt quand le producteur est venu me voir, est venu nous voir en me disant voilà moi je voudrais produire un film sur le bal des folles, je lui ai dit mais moi ce bal, le côté oui d'accord à l'époque le bourgeois allait dans les eaux humains donner des cacahuètes à des indigènes des colonies qui étaient parqués dans des endroits comme ça où on allait effectivement aussi visiter les folles derrière les grilles à la Salpêtrière et donc ce bal est l'émanation de quelque chose de cette époque, de la toute-puissance bourgeoise sur le reste du monde et du mépris bourgeois sur le reste du monde. Ok, d'accord. Donc ça, on va le montrer. Mais au fond, d'abord, ça, on le sait tous. Moi, ce que je trouvais, et on connaît tous l'histoire de Charcot et de son service des hystériques qui a été quand même pas mal raconté depuis ces 10-15 dernières années. C'était nécessaire de le faire. Mais nous, on s'est dit, mais ce qu'on connaît moins, c'est la vie quotidienne de toutes ces femmes pauvres dans cet endroit. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré, à tel point que je dirais même que par rapport au scandale premier que constitue à nos yeux le bal, je dirais que moi, j'ai presque même une espèce de tendresse pour ce bal, comme... le personnage d'Émilie qui dit à un moment, mais au fond, toi, tu as envie de t'enfuir parce que... qui dit à Fanny, qui est une bourgeoise, toi, tu as envie de t'enfuir parce qu'une fois que tu seras dehors, tu auras la belle vie. Mais nous, au fond, on se demande si on n'est pas mieux là parce que tellement la vie est dure pour des femmes comme nous à l'extérieur. Donc cet endroit, la Salpêtrière, que toi, tu vis comme un enfer en venant de l'extérieur... c'est peut-être un enfer à tes yeux, mais nous, au moins, on arrive à se maintenir vivante. Alors que dehors, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On n'a pas d'endroit où dormir, on peut être violenté, on peut être... enfin, il peut nous arriver toutes sortes de choses. On peut ne pas réussir à se nourrir. Et en fait, je pense un peu la même chose du bal. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le bal, je l'ai vu en le vivant même concrètement avec ces femmes handicapées avec qui on a joué à ce bal. Et il y a une vraie joie, je pense que simplement l'amour de la musique, le plaisir des jolis costumes. Et je pense que c'était aussi une occasion de réjouissance et de beaux souvenirs pour ces femmes. Donc c'est, comment dire, c'est toujours plus compliqué que ce que les idées comme ça un peu morales qu'on peut avoir en se disant c'était vraiment Manichéen. Immonde. Voilà, c'était vraiment immonde. Oui, c'était immonde du point de vue de, parce qu'on pense au geste des dominants, donc le geste des dominants est immonde. Mais au fond, la façon dont ces femmes pouvaient le vivre n'était pas forcément négative et ça m'intéressait de raconter les deux choses en même temps.
On voit qu'elle prépare la chorégraphie, que certaines jouent des instruments. Mais par contre, il y a aussi une violence. Vous mentionnez la violence extérieure.
Le plaisir de la danse, qui est une espèce de tout temps, on a soigné avec la musique et la danse. Donc on sait que la musique et la danse, et notamment, c'est un des moments du film que je préfère, qui est un moment de partage, où elles apprennent à danser le quadrille ensemble et où il y a une espèce de... elles ont beau être dans l'endroit probablement le plus terrible de Paris, malgré la dureté de l'ensemble de ce qui est raconté dans le film, il y a une forme de joie qui traverse le film et qui m'était vraiment précieuse, que j'avais envie de... Et qui est, je pense, une joie de... Quand on n'a plus rien, il reste la joie. Enfin, et je trouvais ça important de le montrer, que le film ne soit pas uniformément gris et sinistre.
La joie, elle partage avec les autres.
Absolument.
Mais par contre, vous avez mentionné la violence extérieure au lieu de la salpêtrière. Par contre, il y a aussi une certaine violence avec la chef infirmière et avec la douane, son assistante.
Oui, alors il y a la violence des soins, parce qu'on considère qu'une femme folle à l'époque est quelqu'un de tordu et que c'est quelqu'un qu'on doit redresser. Mais si on pense à cette métaphore, qui était vraiment une façon de penser de l'époque, redresser quelque chose de tordu, ça peut difficilement se faire sans une forme de violence. Voilà, ça passait par des traitements à l'eau froide, ça passait
des entraves,
ça passait. Et quand par hasard il y avait une personne qui elle-même n'était pas saine, comme cette douane dont on comprend à la fin qu'elle est au moins aussi malade à cause d'une vie terrible, d'ailleurs on le raconte, et c'est là où il y a, enfin, où je rejoins mon intuition première autour de la nouvelle d'Edgar Poe sur la confusion entre les fous et les soignants, et ça m'intéressait de comprendre à la fin que l'ultra-violence de cette femme était une manifestation de sa, enfin d'une fracture intérieure. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, au fond, que le film a fini par trouver son titre avec un motif pluriel qui est captive. Et de mon point de vue, il n'y a pas que les internés qui sont captives, mais l'infirmière jouée par Marina Foïs, la douane, elle est aussi captive de ce lieu, et même Bobotte. Même Bobotte, le personnage joué par Josiane Balasko, est captive de son désir de bien servir les médecins. Et ce système qui a été mis en place par les hommes, pour les hommes.
Arnaud Despalières, vous avez mentionné que vous aviez des femmes en situation de handicap pour le Bal des Folles. Vous êtes vous-même comédien, puisque vous avez monté votre troupe. Vous avez l'habitude de diriger des actrices, des comédiennes, des acteurs. Comment avez-vous travaillé avec ces personnes? Est-ce que c'était... Il y avait une difficulté supplémentaire?
Je crois que la vraie difficulté, qui n'était pas une difficulté, la vraie chose à réussir, c'est de leur constituer un environnement... c'était souvent ces femmes-là avaient souvent une très grande extraordinaire hypersensibilité. Voilà. Donc il s'agissait que, alors qu'un tournage est rarement un lieu de travail très délicat, ça peut même être un lieu de travail un peu brutal, parce qu'on doit aller vite, on n'a pas le temps d'être toujours très délicat, il fallait délicatiser le plateau. Voilà. Et ça a été assez merveilleusement fait par toute l'équipe qui a bien compris ça. Et à partir du moment où on avait un peu ôté tous les endroits où elles pouvaient se faire mal, au propre comme au figuré, il s'est agi de les laisser vivre et s'exprimer en les accompagnant, mais en leur... moi, je trouvais que c'était important de leur laisser beaucoup de liberté, parce que ce qu'elles avaient à apporter par leur simple présence, je n'aurais pas su l'inventer. Voilà. C'est elles seules qui étaient capables de le faire. Et donc, là, j'ai un peu volontairement... changer de casquette et mis ma casquette de documentariste, où il s'agissait de laisser la place au réel et pas tant de les diriger que de leur laisser une place.
Les laisser vivre. Exactement. À leur guise.
Exactement.
On doit bientôt vous quitter. Rapidement, je voulais parler de la photographie, mais je pense qu'on n'a plus le temps. Est-ce que j'ose vous poser la question de vos engagements politiques, parce que vous avez signé la tribune si je ne me trompe pas, qui a été publié en décembre par rapport à la situation dans la bande de Gaza?
Je dirais que mon principe d'engagement, c'est d'être systématiquement du côté des victimes. J'en ai pas d'autres. Mmh. De quelque camp qu'elles soient. Je pense qu'il n'y a pas d'autres rigueur morale et politique qui tiennent. Voilà, c'est le fil que j'essaye de tenir et dans ce que j'essaye de raconter en cinéma et dans les engagements que je peux avoir à titre personnel en politique.
Donc c'est d'autant plus important à l'heure actuelle, puisque ça s'enlise dans une situation qui semble sans issue, que des personnalités, des artistes comme vous s'engagent.
Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est plus important que ce soit des artistes. Je pense que c'est important que tout le monde s'empare des questions politiques. Et non, je pense que c'est important que tout le monde s'en empare et que tout le monde dise ses accords ou surtout ses désaccords.
Merci Arnaud Despalières. En tout cas, en tant qu'artiste, metteur en scène, réalisateur, scénariste, vous êtes attendu par le public qui veut vous rencontrer pour parler du film. Bon succès à Captive et merci infiniment pour l'entretien.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir.